Le journal de la rédaction, c'est avec vous Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la première marche des fiertés en banlieue, précisément à Saint-Denis. Les glissements de terrain au sein des Républicains, le dernier en date, le ralliement à l'exécutif de 72 maires et élus locaux, analyse de la politiste Virginie Martin. L'opposition kazakh qui s'affiche et s'expose à la férule du régime Nazarbayev lors de la présidentielle. Enfin, la compétition au Royaume-Uni pour succéder à Theresa May, à chacun son Brexit, correspondance de Londres de Marina Daras. Mais tout d'abord, ces rues de Hong Kong noires de monde, 1 million de manifestants, deux fois plus qu'en 1997 lors de la rétrocession de la colonie britannique à la Chine. La Chine qui effraie des populations qui pourraient être extradées sur le continent et avoir affaire à son système judiciaire. C'est un reportage à Hong Kong de Florence de Changi.
C'est en scandant non à l'extradition en Chine et Carrie Lam démission que des centaines de milliers de Hongkongais ont marché paisiblement dimanche après-midi dans un cortège tellement long qu'il était loin d'être arrivé 5 heures après le début de la marche. D'abord, mal compris, ce projet de loi facilitant l'extradition vers la Chine a finalement touché une corde sensible chez les Hongkongais. Pan Sitsoy est une retraitée qui affirme s'opposer à cette loi, non pas parce qu'elle est visée personnellement, mais pour l'impact que cette loi aura sur Hong Kong.
Because this law is very critical.
Cette loi est très problématique. Elle met les gens de Hong Kong en danger. Si la loi est votée, alors les sociétés étrangères vont quitter Hong Kong et Hong Kong va devenir une ville morte. C'est risqué pour les gens riches. C'est pour cela qu'ils sont très inquiets. Mais les classes moyennes aussi.
Beaucoup sont venus en famille dimanche après-midi avec des poussettes et des jeunes enfants. Marie Wong est avec son fils de 10 ans.
Pour nos enfants, on n'entrevoit aucun futur. On sait que le gouvernement chinois n'est pas fiable.
Une dizaine d'activistes ont par ailleurs entamé un sit-in devant le Parlement dimanche soir, réclamant un dialogue avec la chef de l'exécutif Carrie Lam avant mercredi, date à laquelle le Parlement local doit examiner le texte en seconde lecture, selon une procédure accélérée.
Reportage de Florence de Changi à Hong Kong. En France, une première pierre en banlieue, l'aube d'un combat contre l'impunité qui domine et gouverne les esprits homophobes. Plus de 1000 personnes ont participé à la première marche des fiertés à Saint-Denis pour favoriser la visibilité et défendre les droits des personnes lesbiennes, gays, bi, trans. Manon de Verdet a rencontré là-bas Anan, une militante lesbienne et mère d'une petite fille qu'elle a eue grâce à une procréation médicalement assistée.
Moi personnellement j'habite et je travaille et j'élève donc ma fille aussi dans le 93 à Saint-Denis. Donc pour nous c'était important en fait qu'on soit visible en tant que LGBT des quartiers populaires pour porter nos revendications et nos existences. En fait le mot d'ordre c'est nos quartiers ne sont pas des déserts LGBTQI, c'est-à-dire en fait dans nos quartiers populaires on existe. On élève nos familles, on travaille, on milite. Et en fait, trop souvent, on est instrumentalisé ou invisibilisé. C'est-à-dire, soit on parle de nous que pour dire que dans les quartiers populaires, les gens sont plus homophobes, etc., etc. Soit carrément, on parle pas de nous du tout. Et en fait, on est là pour reprendre le terrain et pour dire qu'on existe, qu'on s'organise, qu'il y a beaucoup d'associations de terrain locales qui existent depuis des années, qui organisent la solidarité entre personnes LGBTQI. Et en fait, qu'on n'a pas besoin ni de l'État, ni des institutions pour parler à notre place. Le premier ennemi des homos, c'est l'État, parce que c'est lui qui prend pas les dispositions pour faire en sorte qu'on puisse vivre tranquillement. Voilà, moi, en tant que femme lesbienne, le droit à la PMA, les reculs sans arrêt, c'est l'État qui l'organise, c'est pas mon voisin de palier. Le fait qu'on puisse pas avoir accès pour les personnes trans au changement d'état civil gratuit, c'est l'État qui l'organise, c'est pas mon voisin de palier. On va pas nier non plus les gens pour qui ça se passe pas bien, parce que ça existe, mais en fait, pour tous les homos, c'est difficile. La différence, c'est que nous, en fait, on n'est pas vus comme des sujets politiques. On parle tout le temps à notre place, en fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre la place, de prendre la parole et de plus être dans la marge, quoi.
Un témoignage recueilli par Manon de Verdet. C'est une drôle de reconfiguration que vit la droite. Enfin, une partie de la droite, celle des Républicains. 9 mois des municipales, 72 maires et élus locaux se rallient à Emmanuel Macron et lui présentent tous ses vœux de réussite. La porte-parole des Républicains, Laurence Saillet, parle de racolage électoral. Contentons-nous d'essayer de comprendre ce qui se passe. Nous sommes en ligne avec la politiste Virginie Martin. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Ont-ils envie de faire gagner la majorité présidentielle ou bien de ne pas perdre leur mandat, ces grands voyageurs ?
J'ai plutôt envie de dire que la réponse est pratiquement dans la question. En effet, on sent bien leurs craintes finalement de perdre éventuellement leurs mandats locaux et de se rattacher finalement à la locomotive de la République en marche en disant tiens là, si on prend finalement, si on se met dans cette roue-là, ça va fonctionner un petit peu comme d'ailleurs sur les législatives de 2017 où finalement l'étiquette La République en marche faisait que tout le monde pouvait comme ça embrasser une victoire assez facilement. Là, c'est un peu la même crainte de perdre avec l'étiquette Les Républicains et l'espoir de mieux gagner plus facilement avec évidemment l'étiquette Macron en marche.
Alors que se passe-t-il à la droite du centre, à moins que ce ne soit au centre de la droite? Enfin, où commence-t-elle et où s'arrête-t-elle ces droites?
Oui, c'est très compliqué parce que, vous savez, on a l'habitude de dire qu'il y a une droite plus libérale, une droite un peu plus autoritaire, qu'on avait appelée orléaniste, bonapartiste, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron représente à la fois le libéralisme, quand même assez cher à une grande partie de la droite, et aussi une forme d'autorité du parti de l'ordre, là très chère évidemment historiquement à la droite. J'en veux pour preuve notamment que face aux Gilets jaunes, il n'est pas allé du côté des manifestants, du côté de ceux qui revendiquaient, mais au contraire, du côté de l'ordre, de la loi anti-casseurs et de la fermeté. Donc c'est vrai que cette droite traditionnelle, donc représentée normalement par les Républicains, qui doit avoir deux jambes historiques, qui est d'un côté quand même son amour pour le libéralisme et de l'autre son amour de l'ordre, là forcément se voit concurrencée par un Emmanuel Macron qui siphonne très sérieusement leurs deux mamelles, si je puis dire, idéologiques.
Mais alors, Virginie Martin, est-ce là la résultante des tentatives de bipolarisation de l'exécutif RN versus La République en marche, au risque d'offrir tôt ou tard d'ailleurs une alternative à l'extrême droite?
Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle, vous savez, le phénomène TINA, There is no alternative. Alors on avait connu ça dans les années 90, 80, en Angleterre, aux États-Unis. Et là on est un petit peu pris en étau, comme si effectivement, de toute façon, c'était Macron, le progressisme et les ringards conservateurs, nationalistes, fascistes, excessivement dangereux, que représenteraient finalement les radicalités, souvent exprimées évidemment par le Rassemblement national, anciennement Front National. Donc c'est très compliqué, parce que finalement on est dans un bipartisme d'un genre nouveau, mais qui est une fausse alternative, ce que Michéa avait appelé, je crois, une alternative unique. Donc on voit bien, finalement, on ne peut pas avoir le choix entre la gauche et la droite, mais plutôt entre ce qui se pose comme le bien et qui s'auto-réclame du bien, et le mal. Qui aurait envie du mal? Personne. Donc forcément, on est dans cette alternative unique qui nuit évidemment beaucoup au débat démocratique et à la pluralité de notre paysage politique.
Un tout dernier point, Virginie Martin, des élections européennes qui rebattent les cartes, qui reconfigurent les corps politiques à ce point, c'est nouveau?
C'est nouveau, oui, en tout cas, comme cela et dans ces dimensions, il y a toujours eu un peu la patte des écologistes qui est venue un peu parfois perturber le jeu. Les élections intermédiaires sont souvent défavorables au pouvoir en place. Là, on a vu en plus que ces élections intermédiaires, même si les équipes de l'oiseau Macron sont passées deuxième derrière Jordan Bardella-Le Pen, on voit bien quand même que ça n'a pas été un échec pour La République En Marche, loin de là. Donc en fait, c'est un pouvoir qui est de nouveau finalement légitimé, d'une certaine manière, avec un affaiblissement, alors là, durable et pérenne des gauches, quelles qu'elles soient, et je mets évidemment la France insoumise dedans, et phénomène quand même plutôt nouveau, une droite qui, là, s'est faite aussi très affaiblir. Donc on a un hyper-centre, un centre extrême, qui va très loin à gauche, très loin à droite, et qui ne laisse finalement comme possibilité de respiration démocratique que Le Pen et le Rassemblement national, qui sera à terme, quelque part, quelque chose de... Voilà, on peut finir par se brûler avec ce feu-là, même si pour l'instant, évidemment, Macron peut régner sur la France tranquillement, sans avoir peur de quoi que ce soit, mais quand même, le feu, ça brûle.
Voilà, merci à vous, merci Virginie Martin, politiste, d'avoir accepté notre invitation. Un mirage des droits de l'homme au Kazakhstan. L'ONG Human Rights Watch insiste. L'idée d'une transition politique est une illusion et malheureusement, l'immédiat lui donne raison. Des centaines de manifestants d'opposition ont été arrêtés cet après-midi dans la capitale Almaty en ce jour d'élection présidentielle. 500 arrestations selon la police. C'est une correspondance de Moscou de Claude Brouillot.
Si l'opposition à Kassym Jomar Tokayev n'existe sans doute pas dans les urnes, elle est bien réelle en revanche dans la rue. Au-delà de l'élection programmée du protégé de Nursultan Nazarbayev, l'autre enseignement de ce scrutin présidentiel, c'est qu'il se développe à Almaty et à Nursultan, le nouveau nom de la capitale du Kazakhstan, un véritable mouvement bien décidé à se faire entendre dans les mois à venir. Sa revendication est simple, la tenue d'une élection qui soit véritablement représentative de la société kazakh. L'éviction du seul opposant à Tokayev et Nazarbayev, un certain Mokhtar Ablyazov, ancien banquier en exil, a généré ses appels à manifester et à voter nul aujourd'hui afin de ternir le succès annoncé du premier nommé et la stratégie de contrôle du pouvoir organisée par le second. Il n'en demeure pas moins que bon nombre d'électeurs ont préféré confier le destin d'un Kazakhstan toujours coincé entre la Russie et la Chine à un visage connu. Kassym Jomar Tokayev, ancien ministre des Affaires étrangères notamment, et qui se fait fort de poursuivre la politique des grands équilibres présenté par Nazarbayev à l'époque de façon autoritaire comme la seule capable de garantir l'avenir du pays.
Quatre personnes sont mortes ce dimanche au Soudan au premier jour d'un mouvement national de désobéissance civile lancé par les meneurs de la contestation contre les généraux au pouvoir. Et six jours après un massacre lors d'un sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum, 118 morts selon un dernier bilan. Au Royaume-Uni, la course pour briguer le poste de Premier ministre. Les candidatures ne sont pas encore officialisées, mais les candidats articulent et rôdent d'ores et déjà leur discours de campagne au cœur de leur argumentaire. La question la plus épineuse du moment, le Brexit. Londres, Marina Daras.
Au Parti conservateur, c'est deux poids, deux mesures. D'un côté, le tonitruant Boris Johnson, pour l'instant favori des Tories, qui dévoilait ce matin sa stratégie sur le Brexit en tapant du poing sur la table. Il a prévenu que s'il devenait Premier ministre, il refuserait que le Royaume-Uni paie la facture du Brexit, le fameux chèque de 40 millions d'euros de cotisations dues à l'UE, jusqu'à ce que Bruxelles accepte un meilleur accord de retrait. De l'autre côté, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, se positionne comme le candidat de la renégociation. Il se dit absolument sûr que si le Royaume-Uni adopte la bonne approche sur le sujet, les Européens seront prêts à négocier. Trouver une solution technologique au problème de la frontière entre les deux Irlandes est tout à fait faisable, d'après Jeremy Hunt, qui dit s'être entretenu avec Angela Merkel cette semaine. Le futur Premier ministre britannique devrait être élu fin juillet, juste avant la pause parlementaire estivale. Il restera donc très peu de temps pour agir, puisque la prochaine échéance du Brexit a été fixée au 31 octobre. Et pour certains candidats, comme Boris Johnson, pas question de repousser cette date fatidique à laquelle le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne avec ou sans accord.
Des milliers de pêcheurs ont bloqué l'autoroute la plus fréquentée du Bangladesh pour manifester contre une interdiction de 2 mois de pêcher dans le golfe du Bengale. Les autorités ont pris cette mesure au nom de la préservation de l'environnement et des stocks de poissons, mais selon les pêcheurs, sa durée record les conduit à la faillite. Le prix West France Étonnant Voyageur a été décerné cet après-midi à Saint-Malo à Anaïs Lebet pour « Des hommes couleur de ciel » aux éditions de l'Observatoire qui, je cite les organisateurs, évoque avec beauté les cicatrices et les failles de deux frères tchétchènes contraints à l'exil en Europe. Journaliste reporter à Moscou pendant 5 ans, Anaïs Lebet, actuellement journaliste à l'agence France-Presse au bureau de Nicosie, a suivi l'actualité russe, effectué plusieurs séjours en Tchétchénie où elle a couvert notamment la persécution d'homosexuels par le pouvoir local. Quelques mots de la météo pour refermer cette édition. Le temps de demain lundi, toujours instable avec passage d'averses notamment sur l'Est. Des Pyrénées au Massif central jusqu'au nord de PACA, Rhône-Alpes, Franche-Comté et l'Alsace, temps très nuageux et pluie et averses dans l'après-midi. Il est 18h14, cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.